Françaises, Français, mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité immédiate.
Nous sommes le 17 mars 2020. La France s'apprête, comme le monde entier, à entrer dans une période inédite qui a bouleversé nos relations sociales, nos rapports aux autres et notre modèle d'habiter. Selon une étude réalisée pendant le premier confinement en 2020 par Lise Bourdeau-Lepage, professeure en géographie, 68% des personnes interrogées considéraient alors que la période de confinement changera quelque chose. 2 ans et demi après la première vague, force est de constater que beaucoup de choses ont changé. Notre relation au travail, bien entendu, mais également la mobilité résidentielle. Catalyseur ou accélérateur d'un monde en changement, la crise sanitaire a mis en exergue les grands enjeux actuels que sont la transition énergétique, qui trouve tout son sens dans le contexte de la guerre en Ukraine, et la transition démographique, qui nous amène à repenser notre manière d'accompagner nos seniors.
C'est quand même un espèce de choc. Violent, on va dire, pour les résidents et les familles.
Dans cette émission spéciale, réalisée en partenariat avec le CRITADA, j'ai le plaisir de recevoir Solène Dorier, chargée de projet au Gérontopôle Aura, et Geoffrey Blain, enseignant-chercheur au sein du laboratoire ESPI2R. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, ce que je vous propose pour commencer notre échange, c'est de faire un petit retour en arrière et de revenir justement pendant le confinement. Alors, on devrait dire les confinements, on va commencer par le tout premier, on revient un petit peu en 2020. Et première question peut-être pour Solène. Comment est-ce que les seniors ont vécu ce confinement ?
Alors, c'est une grande question parce que déjà, c'est une grande catégorie, en fait. Parmi les seniors, il y a vraiment une hétérogénéité des individus. Nous, on a eu l'occasion de réaliser plusieurs études, des études qualitatives, des études quantitatives, pour comprendre un petit peu comment ces seniors vivaient le confinement. On allait les interroger, bien sûr, pendant la crise, après la crise aussi, pour voir quels avaient pu être les effets sur le long terme. Et puis voilà, comme je le disais, il y a vraiment plusieurs vécus, parce que aussi plusieurs situations de vie avec des personnes qui vivaient à domicile, qui étaient plutôt encore bien impliquées dans une vie associative, ou en tout cas qui avaient une vie sociale. Et puis on a eu des seniors aussi qui étaient plutôt en institution, en EHPAD notamment. Donc voilà, il y a eu déjà plusieurs enjeux. Et puis dire aussi qu'on n'a pas tous été finalement égaux en termes de confinement, de qualité de son confinement, qui a parfois donné lieu à des sentiments d'injustice quant à nos conditions de confinement, notamment en lien avec le logement, mais aussi en lien avec un accès à une alimentation un peu diversifiée. Enfin voilà, on n'a pas tous eu cette même chance. Ce qui ressort quand même de nos études, c'est qu'il y a eu un certain phénomène d'isolement social, qui a été finalement une conséquence forte du confinement sur les seniors. On sait que l'isolement social a des conséquences sur la mortalité, sur l'apparition de troubles psychiques aussi. C'est un fléau. Et cet isolement social, donc finalement la rupture des relations sociales, a généré un sentiment de solitude en fait assez généralisé chez les seniors, et ce finalement peu importe leur habitat et puis leurs conditions de vie. Il a été généralisé en tout cas du domicile jusqu'à l'EHPAD. On a même vu parfois un syndrome de glissement, c'est-à-dire une perte de cette envie de sortir de chez soi, d'aller marcher, de se nourrir, etc. Enfin voilà, il y a eu quand même des conséquences assez néfastes. Les seniors, de par leur fragilité au virus, ils ont été souvent considérés comme des personnes un petit peu en incapacité décisionnelle. Il y a eu un certain manque de lucidité sur la capacité des aînés à prendre les bonnes décisions pour eux. Et ça, c'est vraiment ce qui ressort aussi de nos enquêtes. Alors pourtant, les chiffres l'ont montré. Les aînés, assez rapidement, en fait, ils ont pris conscience finalement de la dangerosité du virus. Ils ont fait preuve souvent d'une extrême prudence, en fait, finalement. Donc ce qui ressort aussi de nos enquêtes, c'est cette volonté pour les seniors interrogés, en tout cas, d'exprimer leur citoyenneté aussi. Ils ont regretté qu'on les interroge pas assez dans les médias, par exemple. Donc il y a aussi une volonté finalement de, il y a eu en tout cas une volonté de montrer que ben c'était une population effectivement peut-être à risque, mais pour autant qui avait des envies, qui était capable de prendre des décisions pour soi-même aussi. Et ça, c'est important de le rappeler.
Ça rejoint d'ailleurs des travaux qui avaient été menés par avec la NCV, l'Agence nationale des chèques vacances, où finalement ce qui était ressorti de l'étude, c'est que ceux qui finalement avaient su justement passer le cap et su positiver finalement s'en sortait, et les autres se sont de plus en plus coupés en fait. Donc on a vraiment ce double phénomène. Mais alors ça m'amène effectivement, on a vu la question des seniors, peut-être la question des professionnels, parce que finalement les professionnels avaient des habitudes de travail, et d'un seul coup tout s'est trouvé chamboulé. On a vu des établissements où le personnel, même pendant le premier confinement, restait pour dormir, ne rentrait pas chez eux pour justement pas laisser les seniors tout seuls. Alors justement, toutes les études que vous avez pu mener, qu'est-ce qu'elles nous donnent sur ces professionnels à cette époque-là?
Alors, une fois de plus, diversité des ressentis, évidemment, vécu très personnel. Pour autant, chez tous ces professionnels qu'on a dit un petit peu de première nécessité, de première ligne, c'est vraiment une première étape, je dirais, de choc, un petit peu de stupéfaction de la situation, et par son côté aussi un petit peu inédit. Mais puis très vite, finalement, une prise de conscience des enjeux et un vrai engagement, en fait. Et ça, c'est important de le dire aussi. Ces professionnels, malgré les difficultés, parce qu'il y en a eu, évidemment, en termes d'effectifs, en termes de reconnaissance aussi de leur rôle. Il y a eu tout un tas de débats autour de la vaccination aussi et du regard qu'on pouvait poser sur eux par rapport à leur choix. On sent qu'il y a quand même eu un certain investissement, que les professionnels se sont saisis de leur rôle. Ce qui a eu parfois des effets un petit peu délétères aussi, parce qu'on leur a attribué un petit peu cette casquette de héros, et alors que pour autant, sans écouter forcément ou leur souffrance, parfois se sentant un petit peu stigmatisés. Donc une période effectivement rude, mais souligner quand même qu'on a eu des professionnels qui étaient engagés, et ce, finalement, que ce soit des professionnels soignants, mais pas que, en fait, personnel d'EHPAD ou autre, vraiment une mobilisation générale, en fait.
Et cette mobilisation générale, on la retrouve aussi quelque part dans la population. Je vous propose, juste avant de vous faire réagir, peut-être d'écouter un petit extrait de jeunes du quartier de la Cotonne à Saint-Étienne, et finalement qui se sont retrouvés pour une belle action. Je vous propose de les écouter et on se retrouve juste après.
J'habite à la Cotonne, j'ai 20 ans, je suis foot à Andrézieux-Boutéon, en National 2.
Moi, je travaille dans le milieu médical, je suis manipulateur en radiologie. Donc j'ai été impacté directement par ce confinement et cette crise sanitaire.
Du coup, j'étais forcé de rester chez moi.
On a un groupe WhatsApp en fait par rapport au club de foot. Et sur ce groupe WhatsApp-là, un jeune, après avoir vu une vidéo, a proposé d'aider les personnes âgées. Et de là, c'est parti, un engouement. Tout le monde s'est mis au diapason.
Sachant que parfois leur famille ne pouvait pas les aider parce qu'ils étaient soit loin, soit ils devaient s'occuper de leurs enfants, etc.
Et on n'avait pas de bureau, de choses comme ça, pour un point logistique pour pouvoir faire cette action. Donc on s'est rapproché de l'ANEF, un partenaire, une association du quartier de la Cotonne aussi, qui elle avait un bon point logistique, elle avait un local.
Puis bon, feu, on est parti, et on a commencé par... tout ce travail qu'on a pu effectuer là, sur cette période de confinement.
On a commencé par faire des petites des courses aux personnes âgées, puis après on s'est rapproché du pharmacien, on livrait des médicaments.
L'action, je pense qu'elle a montré à certaines personnes que les jeunes sont capables de.
Avec ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi à faire, je trouve que c'était pas plus mal d'avoir un confinement. On a pu aider des gens aussi, on a pu passer du temps à faire d'autres choses, donc ça va. En soi, c'était quelque chose de bénéfique.
Et c'était une expérience qui était vraiment, vraiment enrichissante pour le quartier, et justement montrer un exemple.
Ça a tellement été positif, cette action, que les jeunes-là, s'il faut le refaire, ils n'hésiteront pas à le refaire.
Finalement, ces jeunes, ils nous démontrent que la solidarité Elle est là ?
Oui, tout à fait. On parlait tout à l'heure des conséquences du confinement sur les seniors. Effectivement, pendant cette période, les personnes âgées ont dû faire face donc, à la fois à des conséquences directes sur la santé physique, la santé physiologique, mais aussi sur la santé psychosociale. Les personnes âgées nous ont aussi fait part d'un sentiment parfois, parce qu'elles étaient un petit peu surmédiatisées, d'un sentiment un peu de marginalisation, voire parfois d'infantilisation, de stigmatisation. Et nous, de ces enquêtes, on s'est dit, il y a peut-être un vrai sujet là, en fait, et est apparu ce concept d'agisme, donc de discrimination liée à l'âge. Et je parle de ça parce que c'est lié, en fait, à ce rapport, en fait, qu'ont les générations entre elles. L'agisme, c'est donc les comportements discriminatoires envers le public vieillissant. Et on a vu que ça avait été finalement un fléau et que ça avait été mis en lumière pendant cette crise Covid. Et de fait, nous, on a lancé du coup des travaux par la suite, et notamment un travail de thèse qui a été lancé à la suite de cette petite étude qu'on avait réalisée pendant le confinement, où on se dit finalement qu'il y a un vrai sujet et on s'intéresse à aller voir comment cet agisme, il se construit, comment il apparaît dans la société, quels sont finalement les rapports entre les générations, parce qu'on a bien vu qu'effectivement, ça, c'était venu bouleverser certains rapports, cette crise et ces confinements. On le voit avec des jeunes qui parfois se sont mobilisés, des jeunes qui ont pris conscience aussi des besoins de cette population vieillissante. Et nous, l'idée de ce travail, c'est aussi de se dire alors comment c'est construit en France, mais aussi comment on peut aller voir dans les autres pays comment cet agisme, il existe, est-ce qu'il existe déjà, comment il se construit. Et c'est pour ça qu'on lance une comparaison internationale entre le Canada, la Belgique et le Cameroun, pour voir un petit peu quels sont les effets aussi culturels et les effets sur cette construction de l'agisme.
Et vous aurez les résultats en combien de temps ?
On les aura dans 2-3 ans.
2-3 ans.
On viendra vous les présenter.
Ah bah, ce sera avec plaisir, effectivement. En tout cas, on peut émettre l'hypothèse que dans les sociétés plus traditionnelles, on a peut-être un rapport aux anciens différent,
oui,
mais que ça change peut-être aussi chez...
Tout à fait. Et puis, on part du principe, nous, que les relations intergénérationnelles sont aussi peut-être un levier de lutte contre l'agisme. Et comment, du coup, on peut faire prendre conscience aussi qu'il faut qu'on partage la société entre plusieurs générations et que pour autant, ces seniors qui, dans notre inconscience, sont des personnes fragiles, vulnérables, qui peuvent rien nous apporter, ont peut-être quelque chose à nous apporter, en fait. Et c'est vraiment, nous, ce qu'on promeut aussi, c'est ce dialogue entre les générations.
Sujet évidemment important. On voit bien que toute la société s'est retrouvée changée. Je vais me tourner vers Geoffrey Blin. Quels ont été nos rapports à l'habitat ? Du moins, quels ont été les changements, nos rapports à l'habitat avec cette crise sanitaire ?
Oui, c'est vrai que la crise sanitaire a quand même bousculé la façon dont on a de percevoir et de concevoir la ville de façon générale. Là, l'exemple le montre sur la question sociale et sur la question de la place de chacun dans la société. Et notamment avec cette question que vous soulignez de l'agisme. Mais après, plusieurs enjeux de façon plus large, effectivement, des enjeux urbains qui sont mis en avant par cette crise sanitaire. Et parmi ces enjeux, il y a la question d'abord de la densité, population, qui a été soulignée, la question de la présence de nature et de biodiversité en ville, la question des déplacements, des mobilités dans la ville, la place du travail, vous l'avez souligné en introduction, la qualité des logements et aussi la façon dont on a de consommer. Donc bien sûr, tous ces enjeux qui touchent l'ensemble de la société. Et certains auteurs ont commencé à parler d'un nouvel hygiénisme, un nouvel urbanisme hygiéniste, un peu dans les mêmes principes que ce qu'on avait connu au XIXe siècle, quand la ville a pu apporter des réponses aux différentes épidémies de choléra, de tuberculose, de peste.
La ville haussmannienne, si je ne dis pas de bêtises ?
En partie, oui.
En partie.
Et donc avec des principes qu'on va retrouver encore aujourd'hui, c'est-à-dire agrandir les espaces publics, retrouver de la place dans les espaces publics pour laisser passer plus d'air, de lumière, cette question de la place des espaces verts dans la ville. Et donc ces mêmes enjeux vont réapparaître et vont être à nouveau réappropriés avec un peu de temps dans les réponses, des réponses immédiates et des réponses sur le long terme. Et cette question... qui est primordial au moment de la sortie du premier confinement, c'est comment on matérialise cette distanciation sociale dans la ville et par l'urbanisme.
Quelles ont été les conséquences concrètes ? Qu'est-ce qu'on avait enregistré sur le terrain ?
Bah, sur le terrain, déjà, bon, si on reprend les plusieurs étapes, il y a la sortie immédiate après le premier confinement, où là, les premières réponses vont être surtout liées au travail, la mise en place du télétravail généralisé qui bouscule un peu notre rapport au logement et à la façon d'habiter. La question des mobilités et l'exemple, on va dire, le plus connu est celui de la création des coronapistes, où on a à la fois favorisé la distanciation sociale en créant de l'espace pour le vélo dans les villes, ce qui permettait d'éviter de se retrouver tous à nouveau dans les transports en commun. Et ensuite, la question beaucoup plus générale de la forme que doit prendre la ville, qui là amène des réponses plus sur du long terme. Donc après, il y a la question aussi du logement en lui-même, et avec toute une série de propositions qui vont naître assez rapidement, de la part notamment des promoteurs immobiliers, pour répondre à une adaptation, une meilleure adaptation des logements et de la façon d'habiter en ville, avec des aménagements beaucoup plus spécifiques qui vont en fait être révélés par cette crise sanitaire.
Et au niveau, je vais me tourner vers Solène, au niveau des professionnels, on en parlait tout à l'heure, des professionnels du social et du médico-social. Là aussi, quand on revient un petit peu aujourd'hui, alors pas de télétravail, j'imagine, quand on travaille dans un EHPAD ou une résidence autonomie, est-ce que les pratiques ont changé ?
Alors oui, évidemment, les pratiques ont changé parce que les professionnels ont dû faire preuve de nouveauté, d'adaptation, ça c'est évident, parce qu'ils ont dans un premier temps dû faire face à des problèmes d'ordre structurel de base, on va dire, hein, des difficultés en termes de ressources, hein, ressources financières, ressources humaines aussi, évidemment, qui ont donné lieu à un certain turnover, des problèmes également administratifs. Voilà, il y a eu vraiment tout un tas de dysfonctionnements ou en tout cas une nécessité de se réinventer, en fait, ça c'est évident. Il y a eu de fait aussi une détérioration des conditions du travail, avec des effets bien sûr sur la qualité de vie au travail, sur la santé de ces professionnels. Et puis tout ça a aussi eu un impact finalement sur l'engagement en fait, des professionnels au travail. Voilà, qui ça a aussi... parfois, dans certains cas en tout cas, pu entraîner une certaine démobilisation ou en tout cas voilà, des questionnements qui... Et parfois aussi, ça a mené à un certain accompagnement pour ces professionnels qui étaient trop en difficulté. Voilà, en tout cas, il y a eu des changements organisationnels qui ont aussi soulevé des dilemmes un petit peu éthiques ou en tout cas des problématiques un petit peu éthiques. Et notamment, on en parlait en EHPAD, où finalement, on se posait la question de comment on peut proposer un accompagnement qui puisse répondre à la fois à la nécessité d'aller protéger ses résidents face au virus, notamment, sans pour autant porter entrave à leur liberté, en fait. Et ça, c'est vraiment une question que se sont posées sans cesse les professionnels qui accompagnent les seniors. Je parlais effectivement d'EHPAD, mais c'est aussi valable pour les professionnels qui accompagnent les seniors au domicile. Et puis aussi avec parfois des difficultés autour de consignes qui venaient d'en haut et qui étaient parfois un petit peu contradictoires. Les professionnels qu'on a interrogés nous font part de difficultés parfois quant à la mise en place de ces mesures restrictives un peu imposées qui tombaient comme ça de fait sur tout le monde. Et tout le monde était finalement à la même échelle. Et ils nous disent parfois qu'ils regrettaient de ne pas avoir pu mettre en place des mesures plus adaptées, plus personnalisées, en réponse aussi aux besoins des seniors. Et ça, c'est important de le dire aussi. C'est ce qu'ils font en fait de manière habituelle dans leur pratique professionnelle quotidienne et ce qu'ils n'ont pas pu forcément exercer en temps de crise et en temps de confinement notamment.
Justement, ce que je vous propose, c'est... c'est de faire une sorte de micro-trottoir. On va retrouver des jeunes professionnels de l'immobilier. Je vous propose d'écouter justement quel est leur sentiment, qu'est-ce qu'ils en ont retenu et surtout, qu'est-ce qu'ils projettent de faire à l'avenir.
Le rapport au logement et à l'habitat, il a complètement évolué. Il est encore en plein changement, en pleine évolution. Je pense que voilà, on assiste à... pas forcément un bouleversement, mais en tant qu'opérateur, en fait, on se doit d'être à l'écoute et d'être aussi force de proposition pour être capable de comprendre en fait les attentes aujourd'hui des futurs propriétaires ou des futurs locataires. Hein, mais voilà, comment aujourd'hui vivre bien dans son logement, comment pouvoir travailler, comment vieillir dans son logement. confort d'été, enfin tout un tas de thématiques qu'il faut aujourd'hui aborder et sur lesquelles il faut être force de proposition pour que les futurs occupants soient le mieux possible chez eux.
Après, il y a un vrai type d'habitat qui se développe de plus en plus, c'est les habitats où justement des jeunes, souvent des étudiants qui n'ont pas forcément les moyens de se louer un appartement en ville, vont chez des personnes plus âgées qui, elles, ont une chambre à disposition, qui leur proposent justement, contre un loyer soit très réduit, soit des services comme les courses, par exemple, etc. Des logements qui mettent des logements à disposition. Puis ça permet d'éviter l'isolement dont on parlait tout à l'heure et en plus de loger des personnes qui n'auraient pas forcément les moyens de se loger en ville.
Je pense que c'est de plus en plus dur de vieillir à la campagne aujourd'hui et qu'il faut que les villes soient capables d'accueillir des populations en perte de mobilité ou des populations vieillissantes pour continuer à ce qu'elles aient accès à des services et pouvoir vivre leur vie dignement chez eux et en ville.
Et je pense vraiment, comme Victor, effectivement, que la mobilité va être un élément essentiel, parce que déjà, il y a une perte de mobilité, souvent des personnes âgées, mais même en ville. Parfois, c'est vrai qu'en ville, aller se déplacer de son lieu de vie, de son logement, à aller voir un ami, par exemple. Quand on est assez âgé, au bout d'un moment, on a besoin d'assises, on a besoin de mobilier urbain qui soit à disposition, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Et après, il y a aussi un problème de mobilité, la plus importante, lorsqu'on habite en extérieur, justement, de la ville, où là, pour se déplacer, on va peut-être avoir besoin de plus de transports en commun. Et donc, bien démocratiser les transports en commun pour ces personnes qui, je pense qu'il y a 73 ans, je serai un peu plus jeune que toi. Je pense que lorsque j'aurai 73 ans, je ne sais pas si je serai encore en pleine capacité de conduire mon véhicule. Donc j'aimerais avoir effectivement, comme je tends à habiter plus en zone rurale, j'aimerais avoir à disposition des transports en commun qui puissent me permettre de relier les commodités.
Alors Geoffrey, à l'écoute de nos jeunes qui constituent la relève de la profession immobilière, a-t-on des raisons d'espérer ?
Oui, bien sûr. Je pense que leur témoignage est assez saisissant. Ils ont vraiment conscience des enjeux globaux de la ville et de la façon dont a évolué leur métier. Donc, promotion immobilière, c'est un secteur qui évolue vite et qui sait s'adapter aux grands enjeux de la ville, grands enjeux urbains actuels. Donc, avec nos étudiants, on a pu le voir, ils ont vraiment conscience des enjeux d'habitat inclusif, des enjeux environnementaux de la ville. Et plus globalement, la promotion immobilière a aussi su réagir à la crise du Covid-19 en proposant des réflexions, en imaginant des solutions pour adapter les logements, que ce soit avec davantage d'espaces extérieurs, mais aussi en adaptant les intérieurs pour des espaces de télétravail. Aussi la réflexion de comment améliorer la qualité de l'air intérieur, extérieur. Donc il y a vraiment des réflexions qui sont menées par certains des grands promoteurs immobiliers aujourd'hui.
Quelles sont les formes justement d'habitat qu'ont pu émerger et je pense peut-être même indirectement avec la crise sanitaire ?
On a vu effectivement pendant la crise sanitaire qu'il y avait cette nécessité de se réinventer, de redoubler d'efforts pour offrir aux personnes âgées et ce finalement peu importe leur lieu et leurs conditions de vie, une vie sociale, des activités utiles au maintien de leur autonomie, de leur santé. Et ce qui est important, c'est que ces différentes formes d'habitat qui ont pu émerger, donc habitat inclusif, intermédiaire, partagé, on a entendu beaucoup de termes un petit peu émerger pendant et après la crise. Je crois que ce qui est important de dire, c'est qu'il faut que ces différentes offres d'habitat, elles se basent beaucoup sur les capacités de la personne, en fait, et ses besoins au moment opportun, c'est-à-dire que la personne âgée, elle ne va pas avoir des besoins qui vont être les mêmes, que ce soit le jeune retraité ou la personne qui est plus en déclin ou en tout cas en perte d'autonomie. L'idée, c'est vraiment que l'habitat réponde à un besoin de la personne âgée et du coup soit adapté, le maintienne dans sa santé physique, mais aussi, encore une fois, dans sa santé sociale et sa santé psychologique. Et ça, c'est important.
Est-ce que vous pensez, peut-être que d'ailleurs la question est valable pour tous les deux, cette crise sanitaire, est-ce qu'elle a justement été un peu catalyseur ou en tout cas accélérateur de prise de conscience des grands enjeux et notamment la transition énergétique?
Oui, clairement. Il y a pas mal d'auteurs qui ont souligné cet effet catalyseur. Il y a avec la crise du Covid-19 beaucoup de réflexions sur la ville qui ont émergé et notamment de savoir comment on adapte les modèles de développement urbain, les méthodes urbaines pour construire la ville. Donc il y a plusieurs concepts qui existaient déjà mais qui ont été mis en lumière, notamment la question de la ville du quart d'heure, du modèle des superblocs barcelonais, de l'urbanisme favorable à la santé, aussi de la smart city, de la ville intelligente basée sur le numérique. Donc c'est autant de formes qui sont nées et qui ont... elles ne sont pas vraiment nées pendant la crise, mais elles ont émergé pendant la crise. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de villes en France, mais aussi à échelle internationale, qui se saisissent de ces méthodes, des méthodes qui, en fait, rejoignent clairement les problématiques environnementales majeures auxquelles les villes font face aujourd'hui. Voilà, les questions de résilience urbaine, les questions d'adaptation de la ville au changement climatique, mais aussi à des questions, si on revient à cet enjeu de la santé, des questions de santé beaucoup plus larges, savoir comment on met en ville une place pour les questions de santé mentale, les questions de bien-être et les questions de santé environnement.
On a parmi nos étudiants, alors, et c'était assez intéressant, en fin d'échange, l'un qui nous dit... il va falloir que les villes accueillent les seniors et les fassent. Parce que la ruralité n'en aura plus la capacité. Et l'autre étudiant qui nous dit que lui, il aimerait bien vieillir en ruralité. On a beaucoup parlé des villes. Je pense qu'on a pas mal de concepts, effectivement, assez urbains. Comment est-ce qu'on fait dans les territoires hors des villes? Et est-ce qu'ils ont encore un avenir, selon vous?
Il y a un avenir. Après, il faut effectivement, on a beaucoup parlé de l'espace urbain. Il faut savoir aussi s'interroger sur la place de la ruralité aujourd'hui dans l'aménagement du territoire global français. Donc, il y a une question qui doit être encore creusée pour adapter effectivement les espaces ruraux à la possibilité de vieillir chez soi aussi dans ces territoires. C'est plus compliqué, on va dire, à imaginer que dans l'espace urbain, il y a moins de propositions qui sont faites.
Il faut en fait qu'on s'organise et puis qu'on s'appuie sur les forces vives des territoires. Nous, quand on s'intéresse aux seniors, on parle beaucoup de repérage de la fragilité, de comment on prévient ce moment un peu charnière où potentiellement le senior va entrer en dépendance. Et on se rend compte qu'il faut vraiment s'appuyer sur l'environnement de proximité du senior, qui peut être parfois, alors effectivement, le professionnel de santé. Encore faut-il que la personne fasse la démarche d'aller voir son médecin généraliste, par exemple. Pour autant, on a vu qu'on pouvait aussi s'appuyer sur des professionnels de proximité, de type le facteur qui va venir, qui va se dire « Ah, peut-être que là, il y a un déclin, là, il faut que je me mette en action, il faut que je lance une alerte aussi. Comment on pourrait faire pour, effectivement, permettre à cette personne que je côtoie tous les jours de davantage sortir de chez elle, etc. » Enfin, voilà, il y a aussi... c'est une question qui concerne tout le monde, en fait, et ce, d'autant plus, je trouve, en milieu rural.
Donc un vrai enjeu, effectivement, dans ces territoires, mais beaucoup de questionnements. Peut-être que l'une des réponses sera servicielle. On parle alors, au sens très large du terme, c'est toute la question des professionnels de santé. On en parle encore dans l'actualité, avec les territoires qui n'en sont plus pourvus. Mais également tout ce qui va être l'accompagnement de la personne au sens beaucoup plus large. Et ce qui m'amène, Solène, à vous poser la question un petit peu fondamentale. Est-ce qu'on a une vraie prise de conscience aujourd'hui de l'enjeu des métiers du grand âge? On a eu beaucoup de rapports qui sont sortis. En général, on a le rapport, mais on n'a pas la loi derrière. Est-ce qu'on a enfin pris conscience ou toujours pas d'un point de vue politique?
Cette prise de conscience, elle arrive progressivement, lentement peut-être, effectivement. Et alors, l'effet positif, c'est qu'effectivement, la crise sanitaire a permis de mettre en lumière finalement les difficultés que rencontraient ces métiers du grand âge et de l'autonomie, des déficits de recrutement, des effectifs en tension, de la pénibilité, du manque de reconnaissance, d'attractivité. Voilà, ça a permis de mettre en lumière ces différents enjeux avec ces professionnels qui se sont sentis, qui se sentent toujours d'ailleurs dévalorisés, peu reconnus, alors que finalement est effectivement essentiel à l'accompagnement des personnes âgées. Voilà, on voit effectivement qu'il y a des rapports, qu'il y a certaines mesures qui se sont mises en place récemment pour renforcer l'attractivité de ces métiers. Voilà, ça va de la revalorisation de salaire, hein, notamment sur tout ce qui était aide à domicile du secteur associatif. Voilà, il y a des actions aussi de un petit peu de visibilité ou de sensibilisation, en tout cas autour de ces métiers vraiment porteurs de sens. Il y a des plans d'action effectivement qui ont été mis en place autour de la rémunération, de l'organisation du secteur, de comment aussi on peut répondre aux besoins en termes de ressources humaines. Donc ça passe notamment par proposer des formations mieux adaptées, améliorer la qualité de vie au travail aussi. Voilà, on sait qu'il y a aussi tout ce secteur de la silver economy qui est créateur d'emplois et qui tend vraiment à se dynamiser. Voilà, on sent qu'il y a une prise de conscience qui effectivement peut-être tarde un peu à se concrétiser, on va dire.
Est-ce qu'on est prêt à affronter une nouvelle crise sanitaire?
Bah, déjà, la crise sanitaire n'est pas terminée. Donc, on est dans le début d'une 8e vague, donc on est encore dedans. Donc, il faut savoir continuer à agir et à proposer des solutions pour déjà la crise sanitaire qu'on est en train de vivre. Crise, effectivement, qui s'accumule avec d'autres crises économiques, sociales, énergétiques. Donc, effectivement, les réflexions doivent aller dans le même sens. Et prendre en compte que voilà, l'espace urbain est aussi un écosystème qui vit avec des enjeux sociétaux, des enjeux économiques, et qu'il faut prendre en compte des décisions qui puissent répondre aux différentes crises. La prochaine crise sanitaire, j'espère qu'elle sera dans longtemps, mais en tout cas, j'espère qu'on saura, sur le long terme, tirer les conséquences de cette crise sanitaire, comme on a pu le faire dans le passé face à d'autres épidémies.
Solène ?
Oui, effectivement, je rejoins ce que vous venez de dire. Je crois qu'il faut aussi revenir à l'essentiel, se poser les bonnes questions. Et quand on parle notamment d'accompagnement des seniors, se demander qu'est-ce qui est important en fait pour cette personne que j'accompagne là. On l'a vu et puis on a eu beaucoup de retours d'expérience aussi qui nous ont fait nous interroger sur comment on envisage demain. Est-ce qu'on devra à nouveau, si une crise était amenée à se reproduire, est-ce qu'on devra protéger à tout prix, accepter aussi cette prise de risque? Voilà, ce qu'il faut, c'est évaluer et vraiment tirer les enseignements en fait de cette crise et de sa gestion. Et nous, on croit beaucoup aussi en l'apport des sciences humaines et sociales pour voir un petit peu comment a été perçue cette crise, quelles ont été l'acceptation des différents dispositifs, services ou organisations qui ont pu être mises en place pendant cette crise. Voir aussi l'acceptabilité ou non de certains soins, de certaines pratiques, pour organiser vraiment en dialogue, en concertation, une réponse finalement la plus adéquate possible, en réponse aux besoins et aussi au contexte spécifique.
Merci beaucoup à tous les deux. Solène Dorier, donc vous êtes chargée de projet au Gérontopôle Aura. Et puis, Geoffrey Blin, vous êtes enseignant-chercheur au sein du laboratoire ESPI2R. Et écoutez, un grand merci. Et puis, je vous retrouve, là on était dans le cadre d'une émission spéciale, je vous retrouve chaque semaine dans la Minute Senior, diffusée sur la radio Lyon Première 90.2. Et en podcast, bien évidemment, ainsi que sur la radio RLF 100.9. À très bientôt.
Merci.
Merci.